Bonjour. Donc nous, on est les élèves de Sciences Po. On fait une étude prospective participative sur la transition énergétique dans le Cotentin. Donc pour ça, on s'est déplacé deux fois sur le territoire, à Cherbourg en particulier. Le premier séjour d'études, on a fait des questionnaires quantitatifs. On a récolté environ 154 réponses. Et ensuite, on a fait des entretiens également, une quinzaine à peu près. Et ça nous a permis de dégager en fait des premières tendances sur la vision, la perspective de la transition énergétique dans le Cotentin. Et lors de notre second séjour, on a fait des micro-trottoirs et également des ateliers de discussion dans les lycées, auprès de la population. Et ça nous a permis un peu de confirmer ces premières tendances. Mais après, il faut savoir que ce n'est pas forcément représentatif de la population parce que le nombre n'est pas assez conséquent. Donc, notre travail se situe sur ce territoire parce que donc, le Cotentin est sur la carte. Vous pouvez... parce que c'était un territoire qui est vraiment en plein emploi quasiment, notamment grâce au secteur de l'énergie. Donc, il y a le nucléaire qui est très présent sur le territoire avec notamment les centrales la centrale de Flamanville, également la piscine de traitement de déchets de la Hague. Sur le port de Cherbourg se construisent, c'est un port d'assemblement et de construction des pales d'éoliennes et des éoliennes de façon générale. C'est un territoire qui accorde une place très importante à la nature et à son respect. On tente de préserver en fait le côté sauvage du territoire. Et la maritimité est très importante dans ce territoire. C'est un caractère qui est unique en France. Il y a trois façades maritimes sur la pointe du Cotentin. Et ça fait que c'est un territoire assez vulnérable au changement climatique. Donc les différents usages du littoral et de la mer provoquent en fait de nombreux conflits d'usage qu'on a essayé d'observer et d'étudier. Au point de vue du contexte vis-à-vis de l'aménagement des éoliennes offshore, la stratégie énergétique gouvernementale a été annoncée en 2022 et s'appuie sur deux piliers, les énergies renouvelables et le nucléaire. Un développement massif d'énergie renouvelable est en cours, notamment d'éoliennes en mer, avec la création d'une cinquantaine de parcs éoliens d'ici 2050, avec un objectif de 40 gigawatts en service en 2050. Et l'objectif de la façade en particulier, ça représente entre 7 et 11 gigawatts supplémentaires attribués d'ici 2033 sur la façade Manche-Est-Mer du Nord, et entre 12 et 15,5 gigawatts en 2050. Donc ça comprend déjà tous les parcs déjà attribués en cours d'attribution et les extensions identifiées. Donc, on est en master de concertation et on s'est attardé en particulier sur ce processus au niveau législatif et en fait la raison de la mise en place de la mer en débat. Parce qu'on a pu lire qu'au début, la construction de parcs éoliens en mer apparaissait comme très verticale et les citoyens en fait, n'étaient consultés qu'après un certain niveau d'avancement du projet. Ce qui faisait que les consultations avaient peu d'effectivité, donc ça c'était vraiment au tout début de la construction d'éoliennes en mer. Et donc des consultations ont eu lieu, ça paralysait un peu les projets et ça soulignait un peu le manque de prise en compte par l'État des suggestions faites par les habitants. Et du coup, il y a eu de gros progrès depuis. Et la concertation a pour but à la fois de consulter en premier lieu sur l'opportunité d'un parc éolien. Est-ce qu'un parc éolien est vraiment nécessaire à cet endroit-là ? Et la définition d'une zone d'implantation.
Donc, ensuite, on va parler un peu des observations qu'on a pu faire. Donc, tout d'abord, il est ressorti une certaine domination qui est ressentie par les utilisateurs du territoire. Donc, on va faire un petit rappel bref sur les stratégies d'État, donc notamment des différents parcs en construction dans la région, comme les récents projets Centre Manche 1 et Centre Manche 2. Il y a également des lois et plans, comme la loi de transition énergétique ou encore le plan climat. Et malgré ces volontés, grâce à nos recherches et nos études sur le terrain, on a pu voir, lors de nos entretiens, que les habitants ne sont pas forcément... En accord avec cela, par exemple, la Manche est considérée dans plusieurs de nos entretiens, je cite, comme un dépotoir, ou encore l'État privilégierait les logiques de rentabilité court-termiste et ne prendrait pas assez en compte les spécificités territoriales dans ses décisions d'implantation. En résumé, il y aurait une vision globale étatique qui serait parfois rejetée par les maîtres d'usage car ils se sentent peu consultés. Et on peut le voir justement avec la citation qui est au diaporama. Ensuite, cette stratégie est souvent considérée également comme inadéquate par les utilisateurs du territoire. Donc, pour deux raisons. Tout d'abord, par le manque de considération ressentie par ces derniers et également par la place du nucléaire sur le territoire qui est assez ambiguë. Donc, tout d'abord, parce que c'est un marqueur fort de l'identité du nucléaire. Donc, pour certains, justement, l'implantation d'éoliennes offshore semblerait un peu heurter cette image, mais également parce que ce marqueur identitaire est également vu d'une manière péjorative, car il peut amener à des impacts négatifs. On a également pu faire d'autres observations, telles des émotions négatives, quand on a fait nos questionnaires, qui sont ressorties, comme la résignation, l'injustice ou encore le manque de confiance. Ensuite, il y a de nombreux différents rapports par rapport à l'éolien et au nucléaire. Donc, ce n'est pas homogène. Il y a vraiment des gens qui sont contre, pour ou contre les deux ou pour les deux. Ensuite, les habitants, notamment, sont résignés à, entre guillemets, subir les projets considérés comme implantés, même s'il y a des mobilisations, passées ou même actuelles. En outre, les locaux ne se sentent pas entendus. Donc, de telles données, donc là, on peut voir sur la question, par exemple, 97 personnes sur 153 n'ont pas voté pour l'éolien en mer sur comment souhaiterez-vous que l'énergie que vous consommez soit produite, alors que c'est un projet justement dans le Cotentin. Donc, ces données peuvent alors montrer pourquoi les citoyens ne se sentent pas écoutés et pourraient également expliquer pourquoi ils participent peu aux concertations organisées. Pour finir. Merci. Il y a une stratégie qui révèle également un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a pu remarquer que la majorité de nos enquêtés croit en l'essor des énergies renouvelables, mais ça s'accompagne également d'une certaine méfiance sur leur potentiel. Et donc, ce paradoxe est renforcé par une asymétrie d'informations qui contribue justement à la méfiance des habitants, mais également un manque de confiance justement vers les institutions ou les personnes qui sont à l'origine de ces projets. Et donc, il y aurait un problème justement de communication des projets, même s'il y a de nombreuses tentatives. Et il y aurait une réelle nécessité d'intégrer encore plus les locaux et les habitants dans des projets. En tout cas, c'est ce qui est demandé par ces derniers, comme on peut le voir avec la citation au tableau. Et donc, pour finir, on a pu observer un reportage justement sur France 2 qui est très représentatif de ce qu'on a pu trouver retrouver dans nos entretiens. Pardon, c'est que les habitants ont l'impression justement qu'on leur ment des fois. Et comme par exemple à Batte-sur-Mer, pardon, où on leur avait promis des éoliennes de la taille d'une tête d'épingle, et au fait, c'était beaucoup plus grand que prévu.
Et donc, par rapport aux observations qu'on a pu faire sur le terrain, on a voulu se questionner en fait sur un modèle décisionnel à adopter par rapport à l'implantation d'un futur parc éolien. Et donc, on a voulu se questionner notamment par rapport aux évolutions que l'action publique avait pu avoir par rapport aux énergies renouvelables. Donc, depuis une quarantaine d'années, on peut voir que la transition écologique et énergétique a pris une dimension tout autre et est devenue assez centrale dans les décisions politiques que l'on peut avoir aujourd'hui. Et que du coup, ça a évolué dans cette mesure-là en faveur des énergies renouvelables. On s'est aussi questionné du coup sur quelles étaient notamment les nouvelles capacités que les territoires pouvaient avoir dans le processus décisionnel, notamment d'une implantation d'éoliennes. Et donc, comme on avait dit par rapport aux observations qu'on a pu faire, que certaines personnes considéraient qu'il y avait un modèle beaucoup trop vertical sur le territoire. Comme on peut voir ici, on avait notamment interrogé un pêcheur qui parlait d'incompréhension, qui parlait d'injustice, du fait que le territoire pouvait parfois, selon lui, avoir un aspect beaucoup trop utilitaire et que certains autres aspects pouvaient être effacés, notamment l'aspect attractif. Et que certains acteurs nous ont aussi confié qu'il y avait peut-être une volonté de se réapproprier l'énergie, de donc territorialiser en fait cette énergie et que en fait elle appartienne au territoire et qu'elle soit notamment parfois produite et consommée au même endroit. Et donc, par rapport donc, à ce projet, on s'est posé la question, oui, territorialiser l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, d'accord, l'énergie peut être produite et consommée, mais dans quelle mesure ça peut être fait ? Et donc, par rapport à ça, on a pu aussi constater, on peut voir ici, par rapport à un témoignage qu'on a pu avoir d'une agente d'une direction départementale, qu'il y avait certaines inégalités qui étaient présentes sur le territoire, notamment entre le territoire littoral et beaucoup plus rural, ce qui pouvait créer en fait une disparité, notamment parce que le territoire plus rural avait parfois un plus fort dynamisme, était plus attractif que les territoires ruraux, et les territoires ruraux étaient donc parfois peut-être en marge du processus décisionnel ou avaient une verticalité qui était un peu plus importante sur ces territoires plus reculés. Et donc, ça, c'était notamment pour nos observations de notre premier terrain. Et donc, dans notre deuxième terrain, on a voulu creuser ces questions et donc revenir sur ces questions en fait, de territorialisation de l'énergie. Et on a eu un premier constat mitigé, notamment par rapport à la territorialisation de l'énergie, en demandant aux gens « Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'énergie doit être produite et consommée dans la région ?» Ou « Vous pensez que, en fait, l'énergie doit être produite et elle doit profiter à tout le monde et être consommée en France ?» Et donc, on a eu des constats assez mitigés, dans le sens où la plupart des personnes pouvaient répondre aussi bien à la région que la France. Et donc, en fait, on se rend compte que cette appropriation de l'énergie, elle n'est pas évidente. Et donc, voilà, c'est des questions en fait, qu'on a voulu se poser donc, par rapport justement à ces constats de verticalité sur le territoire.
Merci à vous pour cette belle présentation qui nous a bien introduit le sujet. Je vais maintenant appeler mes camarades de Master Développement Durable, Stratégie de Concertation et de Communication, Lucie et Chloé, à me rejoindre pour une présentation qui fera un focus sur la communication de l'éolien en mer.
Bonjour à tous. Avant de commencer, on souhaitait vous poser une petite question. Est-ce que vous savez combien de types d'éoliennes en mer il existe ?
Ou alors à quelle distance on doit les mettre des côtes ? On espère que vous avez quelques connaissances sur le sujet ou alors qu'on va vous en apprendre plus grâce à ce quiz interactif.
Donc pour ce quiz, on va utiliser l'application WooClap. Ça va être sous forme de QCM, donc je vous invite dès à présent à scanner ce QR code qui va vous emmener sur le quiz. Vous aurez 20 secondes pour répondre à chaque question et n'oubliez surtout pas de valider votre réponse, sinon elle ne sera pas prise en compte. Voilà, on vous laisse un petit peu de temps pour scanner. Bon, on va commencer le quiz alors.
Quel est l'avantage environnemental le plus valorisé dans la communication du maître d'ouvrage ? Est-ce que c'est l'énergie grise, le bilan carbone, la recyclabilité ou le design ? Donc c'est la recyclabilité, puisque les éoliennes sont recyclables à 90%, elles sont composées en majorité d'aluminium et de béton, et cependant l'énergie grise nécessaire à leur mise en fonctionnement n'est moins mise en avant, mais elle augmente le bilan carbone, donc elle doit être prise en compte également.
Deuxième question. Donc selon le document du maître d'ouvrage, quel est le temps de retour pour les 6 premiers parcs éoliens qui sont installés actuellement, sachant que le temps de retour, il se définit par l'énergie, par le temps nécessaire pour qu'une éolienne produise autant qu'elle a consommé pendant son cycle de vie. Est-ce que c'est de 2 à 6 mois, de 1 à 3 ans et demi, de 4 ans et demi à 6 ans ou de 15 à 25 ans ? Alors, la bonne réponse, c'était de 4 ans et demi à 5 ans, sachant que la vie en moyenne d'une éolienne dure 25 ans. À titre indicatif, pour une centrale nucléaire, c'est de 6 à 14 ans et de 1 à 5 ans pour les panneaux photovoltaïques et hydroliennes.
Que sait-on sur le recyclage des terres rares qui sont utilisées dans les éoliennes en mer ? Est-ce qu'elles sont recyclées à 100% ? Est-ce qu'elles sont en majeure partie recyclées ? Est-ce qu'elles sont recyclées seulement à 15% ? Ou est-ce qu'aucune information sur leur recyclage n'est communiquée ? Donc en fait, on n'a aucune information sur le recyclage des terres rares, puisque les éoliennes qui sont installées actuellement, elles n'en possèdent pas, mais les prototypes et les futurs parcs éoliens qui vont être installés posséderont des terres rares, puisqu'elles possèdent un aimant permanent qui permet d'améliorer la rentabilité des éoliennes. Et on sait que les terres rares qui sont utilisées actuellement dans les appareils électroniques, ils sont très très peu recyclés, voire pas du tout. Donc on peut se demander comment elles deviendront recyclables à 100% ces éoliennes si elles utilisent ces terres rares. Mais on sait que des recherches sont en cours pour valoriser à 100% les installations classées pour la protection de l'environnement.
Prochaine question. Quelle est l'énergie renouvelable la plus neutre en gaz à effet de serre, la plus décarbonée ? Est-ce que c'est l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien en mer ou bien le charbon ? Effectivement, vous avez eu bon, il s'agit bien de l'hydraulique. Donc vous avez ici affiché le bilan carbone, donc l'éolienne se trouve en deuxième position. Et donc effectivement, la réponse n'était pas le charbon, parce que ce n'est pas une énergie renouvelable.
Pour quel secteur économique l'implantation de parcs éoliens est-elle bénéfique selon le document du maître d'ouvrage ? Donc, est-ce que c'est pour le secteur industriel, le secteur culturel, agricole ou viticole ? Oui, elle semblait assez évidente. Donc, c'est le secteur industriel, puisque l'implantation des parcs éoliens diversifie les activités portuaires et augmente les emplois dans ce secteur, notamment pour la maintenance, pour la construction et pour la logistique des parcs éoliens qui sont installés.
Prochaine question. Quel est l'avantage qui est souvent mis en avant concernant les éoliennes par les promoteurs de parcs éoliens ? Est-ce que c'est le coût initial bas ? L'effet récif, donc l'effet récif, ça se définit par un récif qui se crée artificiellement sur les mâts des éoliennes et qui permet une concentration en biodiversité. Est-ce que c'est l'impact visuel limité ou le développement des énergies fossiles ? Donc c'était l'effet récif qui permet de créer des conditions propices pour le développement d'espèces marines. Cependant, il n'est pas toujours mentionné les effets négatifs que peuvent avoir cet effet. Donc, par exemple, la prolifération d'espèces invasives, qui n'étaient pas les espèces qui étaient présentes sur cet espace marin à l'origine et qui peuvent complètement dérégler un écosystème.
Quel impact négatif ont les éoliennes sur l'activité des pêcheurs ? Est-ce que le vent pousse trop vite leur bateau ? Est-ce qu'ils observent une diminution de la variété de la quantité des espèces marines ? Est-ce qu'il y a un effet des ondes électromagnétiques sur les bateaux ? Ou est-ce qu'ils observent une baisse des ventes de poissons due au microplastique ? Donc, c'est la diminution de la variété et de la quantité des espèces marines qui peut impacter les pêcheurs, notamment les pêcheurs côtiers. Lors d'une étude de terrain à Courseul, on avait rencontré des pêcheurs qui avaient remarqué une diminution des espèces de poissons plats et de crustacés qui avaient diminué suite à l'installation du parc éolien de Courseul.
Prochaine question. Les activités des pêcheurs ont parfois dû être délocalisées hors de leur zone d'activité habituelle. en particulier lors des périodes de construction des parcs éoliens, quelles ont été les conséquences pour ces pêcheurs ? Est-ce que c'est l'augmentation de la biodiversité dans cette zone, la découverte de nouvelles espèces, la hausse du chômage ou bien la densification des usages des espaces maritimes ? Effectivement, c'était bien la dernière réponse. En fait, la multiplication des usages réduit l'espace qui est dédié à chaque activité, ce qui génère des conflits d'usage. Il faut également mentionner qu'il peut y avoir des frais qui sont à la charge des pêcheurs, notamment ceux qui exercent sur les espaces littoraux avec du matériel dormant, donc celui qui est au mobile type casier, comme on l'a pu l'observer lors de notre enquête qu'a déjà mentionné ma collègue sur le territoire de Courseulles.
Et enfin, dernière question axée sur la communication notamment du débat. Donc l'avenir appartient aux jeunes, il faut qu'ils soient au courant de ce débat. Donc à votre avis, combien la CNDP a-t-elle d'abonnés sur Instagram ? Est-ce qu'elle en a 2, 122, 350 ou 6000 ? N'allez pas voir la réponse avant de voter. Assez mitigé, donc c'est 122 seulement. Donc développer la communication sur Instagram, c'est vraiment essentiel pour toucher les plus jeunes et avoir l'avis le plus exhaustif de la population et le plus homogène possible. Voilà.
Merci beaucoup pour votre participation.
Merci.
Merci beaucoup les filles pour votre présentation. On va tout de suite passer à l'intervention suivante. Donc on va demander à Lucie, Tiléa et Léopold de Sciences Po Rennes de venir pour leur présentation.
Bonjour. Alors, du coup, la présentation se fera seulement avec Léo et moi. En premier lieu, du coup, on s'est intéressé donc à la conception de la transition énergétique et on a remarqué auprès de nos enquêtés que c'était une expression qui était très employée, mais dont la définition restait assez floue et nébuleuse. Elle répond avant tout à une volonté de changement pour répondre à des enjeux, mais ils ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs, et c'est ce qu'on a tenté d'analyser. On s'est attaché dans cette partie de notre enquête à peindre les différentes présentations de cette transition, notamment en mettant en débat les différentes technologies de la transition énergétique, et ensuite on a essayé de classer les représentations qui pouvaient exister. Donc on a remarqué dans un premier lieu que le solaire, c'était une technologie qui était avancée comme une solution face aux impacts paysagers que pouvaient représenter les éoliennes en mer. 56 sur 154 de nos enquêtés souhaiteraient se fournir en électricité avec une énergie provenant du solaire. Le représentant de la Chambre d'agriculture de Normandie nous a notamment souligné que le Cotentin n'était pas moins ensoleillé qu'ailleurs. Et on a remarqué qu'une des raisons de cette préconisation du solaire était en filigrane, en fait, l'argument du paysage qui était non détérioré, avec des panneaux photovoltaïques considérés comme plus discrets, comme nous l'a exprimé par exemple un pêcheur que nous avons interrogé, en expliquant que cela passait plus inaperçu. Ensuite, nous nous sommes intéressés sur le non-consensus entre les éoliennes en mer et le nucléaire sur le territoire. Donc, malgré l'exposition de la pointe du Cotentin à de forts vents, l'éolien, c'est une énergie considérée comme intermittente pour beaucoup de gens. Et c'est notamment un argument qui a souvent été appuyé par les personnes qui étaient plus en faveur du nucléaire. On nous a notamment dit que pour compenser une centrale, il fallait beaucoup trop d'éoliennes. Un touriste nous a également dit qu'aujourd'hui, bien que ce ne soit pas l'idéal, le nucléaire, c'était la technologie la mieux, quoi, qu'on ne pouvait pas faire mieux. Mais en revanche, le nucléaire, ce n'est pas considéré donc comme la meilleure... c'est considéré comme la meilleure énergie actuelle, mais ça ne fait pas l'unanimité. bien qu'il y ait une rentabilité assez importante et que ce soit aussi décarboné que l'éolien. Beaucoup soulignent que les inconvénients et la difficulté pour sortir du nucléaire sont importants. Il y a un véritable clivage. On a remarqué que la moitié de nos enquêtés étaient favorables à l'activité du nucléaire. Et ensuite, par rapport à l'éolien, 60% des enquêtés souhaitant une électricité provenant de cette énergie ne sont pas favorables au nucléaire dans la région. Et le constat donc, pour ces personnes-là, c'est que face au vieillissement des parcs nucléaires, leur souhait, c'est de s'alimenter en électricité dans l'idéal plus vers un mix énergétique que vers le nucléaire qui est omniprésent, et ils expliquent en fait que le territoire en est dépendant. Et pour eux, c'est une transition qui va prendre du temps. Ensuite, on s'est intéressé sur la vision des enquêtés quant aux éoliennes et au nucléaire en termes de pollution et de déchets. On a constaté qu'il n'y avait pas de réelle marque de rejet consensuel pour l'énergie nucléaire ou éolienne. Pour l'une ou l'autre des énergies, il y a des avantages et des défauts qui ont été constatés par nos enquêtés. Et en premier lieu, c'est la pollution. Ce n'est pas à négliger, que ce soit pour le nucléaire, mais comme pour l'éolien. Lors d'une question où on a demandé à nos enquêtés les raisons pour lesquelles ils étaient favorables ou défavorables à l'une ou l'autre des énergies, les termes de déchets et de pollution sont revenus beaucoup plus pour le nucléaire que pour l'éolien, bien que, comme le souligne un surfeur qu'on a interrogé, il n'y a pas de solution miracle pour lui, parce que les éoliennes sont aussi une source de pollution lors de leur installation, par exemple. Et ensuite, on s'est également intéressé à l'impact des éoliennes sur la biodiversité. On a remarqué qu'il n'y avait pas de consensus autour de ça. Donc d'un côté, on a des pêcheurs. On a interrogé deux organisations de pêche et un pêcheur armateur. Ce qui est ressorti de ces entretiens, c'est qu'il y avait une réelle inquiétude pour les pêcheurs d'un impact négatif lors de l'implantation des éoliennes, donc notamment avec des ondes électromagnétiques, ou bien donc lors du passage des câbles pour l'installation, ou bien l'effet des pales sur la migration des oiseaux. Et ça pourrait engendrer une raréfaction de la faune marine et donc, in fine, de la ressource halieutique menaçant les activités de la pêche artisanale. Et en fait, c'est un argument, donc ce que nous a expliqué une des organisations qu'on a interviewées, c'est qu'un des arguments qui revient contre ces inquiétudes, c'est l'effet récif. Mais cette personne nous a expliqué qu'aujourd'hui, ce n'était pas quelque chose qui était prouvé. Donc l'effet récif, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est l'augmentation des organismes vivants dans une zone suite à l'implantation d'un substrat artificiel visant à protéger et à augmenter la biodiversité dans la zone. Et en fait, la personne nous a expliqué que, à l'origine, les éoliennes ne s'est pas implantées pour promouvoir la biodiversité. Et donc, ce n'était pas vérifié. Donc aujourd'hui, on ne sait pas réellement tous les effets que peuvent avoir les installations d'éoliennes malgré les recherches. Donc cela reste encore un non-consensus.
Au-delà des considérations autour d'une énergie idéale à développer en priorité sur la pointe du Cotentin, on a pu distinguer différentes représentations de ce que doit être un futur énergétique souhaitable au sein de la population que nous avons interrogée. Une première de ces représentations repose sur un remplacement ou une substitution des énergies fossiles et du nucléaire par les énergies renouvelables. La présidente d'une association de protection de l'environnement que nous avons eue en entretien nous a dit, je cite, « Il ne faut se priver d'aucune source d'énergie alternative pour quitter le système nucléaire. » C'est une évidence. Concernant les réponses à notre questionnaire, 51% des enquêtés opposés au nucléaire sont pour l'implantation d'éoliennes en mer. Cependant, en fait, ce chiffre est au final peu élevé, car il implique que les autres 49% des personnes opposées au nucléaire ne sont pas forcément favorables à l'éolien offshore. Et d'ailleurs, nos résultats quantitatifs montrent que les personnes interrogées penchent davantage vers le fait de rester sur le nucléaire et de ne pas aller vers l'éolien en mer. Une seconde représentation présente parmi les personnes enquêtées, de manière plus marquée cette fois, est la volonté d'aller vers un mix énergétique diversifié, sans forcément rejeter le nucléaire. Concernant les énergies renouvelables à développer en priorité, les éoliennes en mer sont l'option la plus mise en avant par les personnes répondantes, à 45%. Mais les autres énergies ne sont pas en reste, notamment l'hydrolien à 32% et le solaire photovoltaïque à 31%. En l'absence de solution parfaite, les interrogés préfèrent en majorité diversifier le mix énergétique plutôt que de se centrer sur une source unique. Un ingénieur indépendant impliqué sur des projets d'éoliennes en mer que nous avons eu en entretien nous a fait part de son point de vue à ce propos, je le cite, « Le rêve c'est ça, c'est qu'il y a un mix d'éolien et d'hydrolien ». En effet, la zone du Raz-Blanchard concentre de forts courants marins qui peuvent être exploités pour produire de l'électricité, tout en ayant un effet moins nuisible sur le paysage que les éoliennes. Cette volonté parmi nos répondants d'aller vers un mix énergétique plus varié dessine une transition davantage tournée vers le cumul de différentes sources d'énergie. Et une troisième représentation mise en avant par les personnes qu'on a interrogées est celle d'une transition énergétique tendant vers une réduction de la consommation d'énergie et du gaspillage. Concernant les secteurs sur lesquels agir en priorité pour répondre aux défis environnementaux, les déchets ont été de loin l'option la plus sélectionnée par nos répondants, à 52%. Sur les 12 entretiens qu'on a réalisés, 5 acteurs venant de milieux professionnels différents ont évoqué la réduction de la consommation d'énergie, les raisons pouvant être variées, donc ça peut être des raisons pécuniaires, liées à la préservation des paysages et du patrimoine, ou encore à la volonté de réduire la dépendance au pétrole, qui est nécessaire aussi donc à la construction des infrastructures d'énergie renouvelable. Merci.
Merci, merci à vous, merci aux étudiants de Sciences Po Rennes, Campus de Caen, une fois de plus, pour leur présentation. Je vais maintenant appeler les étudiants du BUT d'Alençon, Candice et Adrien, pour une présentation autour de cartes sur l'acceptabilité des usagers à propos de l'éolien.
Bonjour à tous, merci de nous recevoir. On remercie le Master LEA Développement durable, stratégie de concertation et de communication pour l'organisation de ce colloque. Donc pour comprendre notre légitimité à parler aujourd'hui et mieux cerner un peu notre étude, il va être important de prendre un petit moment pour replacer notre contexte et nos spécificités. Et on passera à l'acceptabilité des usagers juste après. Pas d'inquiétude, ça ne va pas prendre longtemps. Au vu de l'envergure des projets, la CNDP organise un débat d'ampleur et dans ce cadre, elle nous a missionné, nous, le BUT Carrière Sociale, Parcours Ville et Territoire Durable, pour récolter les différents avis et ressentis des usagers des côtes normandes et ainsi alimenter le débat public. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation post-bac en 3 ans de l'Université de Caen, mais sur le campus d'Alençon. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, notre classe de 23 étudiants a eu l'occasion d'aller sur le terrain pendant une semaine fin novembre, et avec l'objectif d'aller au contact du public et des usagers. On s'est répartis en 3 groupes pour être présents sur tout le territoire normand. Nos 3 secteurs allaient du Mont-Saint-Michel jusqu'à Cherbourg-en-Cotentin, le deuxième continuait jusqu'à Ouistreham et le troisième finissait aux environs du Havre. On a pu échanger avec des acteurs institutionnels, des associatifs, des énergéticiens, des professionnels de la mer, d'autres étudiants et surtout des habitants et usagers des côtes normandes. Et donc, dans notre étude, on a utilisé plusieurs approches venant surtout des sciences sociales, mais on s'est aussi essayé à des approches plus techniques. Je vous invite à aller voir la maquette dès qu'elle fonctionnera. On a, entre autres, administré plus de un long questionnaire maison auquel on a eu plus de 300 réponses. On a fait 13 entretiens exploratoires individuels, organisé quelques réunions publiques, des tables rondes et animations, ainsi que des interventions en établissement scolaire. Bon, maintenant qu'on a bien présenté notre contexte, on va vous parler de nos résultats en s'intéressant à l'acceptabilité des énergies marines renouvelables sur notre territoire d'études. On a tout d'abord cherché à savoir ce qui impacte ou impacterait le plus la côte selon les usagers. On observe sur ce graphique que notre population d'études place le tourisme et les loisirs en tête, suivi des transports maritimes et peu après des éoliennes. Je vais laisser la parole à Candice pour approfondir.
Donc, plusieurs facteurs vont jouer sur l'acceptabilité ou non des éoliennes offshore. On va pouvoir parler notamment de la situation géographique des personnes et aussi du rapport visuel qu'elles ont par rapport à celles-ci. Donc, comme on peut le voir sur la carte ici, on peut voir que les personnes qui vivent loin du littoral sont plutôt favorables à l'installation d'éoliennes en mer. Cela peut s'expliquer par le phénomène « not in my backyard », donc qui veut dire en français « pas dans mon jardin ». On a pu observer ce phénomène notamment avec les éoliennes sur terre. Cela montre bien que les personnes veulent des éoliennes, mais loin de chez eux. A contrario, on peut voir que les personnes qui sont plutôt proches du littoral sont plutôt défavorables à l'installation de parcs éoliens en mer. On peut le voir notamment du côté de Cherbourg, où des parcs sont déjà en marche et d'autres sont prévus en construction. Nous pouvons aussi nous intéresser donc à un autre facteur, donc l'aspect visuel des éoliennes en mer. On peut observer sur ce graphique que les personnes qui voient la mer depuis leur logement sont plutôt défavorables à leur installation à 41%. Nous avons pu aussi, durant notre étude, mettre en place une règle qui permet de voir ce que rendrait la taille des éoliennes selon leur distance en mer. Vous pourrez la retrouver au niveau de la maquette aussi, si vous voulez plus d'informations sur celle-ci. Et les réactions des personnes ayant essayé l'outil ont été assez surprenantes, car beaucoup de personnes ne pensaient pas en fait que les éoliennes se verraient si peu. Donc des réactions plutôt positives. Donc pour finir donc cette première partie, donc on peut voir que ces deux facteurs, donc la situation géographique et le rapport visuel, vont donc influencer sur l'acceptabilité ou non des éoliennes offshore. Nous pouvons aussi donc maintenant nous intéresser au profil des personnes interrogées. Donc dans notre questionnaire, nous avons interrogé un échantillon de personnes allant de 14 à 30 ans. Donc il faut donc en tenir compte. Donc sur ce graphique-là, on peut voir que les actifs sont plutôt défavorables à 31% d'installer des éoliennes en mer, les habitants à 28% et les touristes à 20%. Ce sont donc les moins réticents. Pour confirmer cette donnée-là, on s'est aussi appuyé sur une donnée qualitative de notre questionnaire avec la question ouverte « Que diriez-vous du paysage littoral si les éoliennes offshore étaient visibles au large ?» Pour les touristes, cela est non dérangeant, quasi invisible, alors que pour les habitants, cela parasite la vue et il faut les éviter sur les grandes plages touristiques. On peut donc voir que leur ressenti est en contradiction. De plus, lors de nos déplacements, nous avons pu interroger des actifs travaillant au bord du littoral qui, eux, craignent la diminution et la disparition du tourisme, sauf que, comme démontré précédemment, les touristes s'en préoccupent peu. Nous pouvons aussi nous intéresser aux métiers liés à l'aquaculture, car lors de notre étude, nous avons eu beaucoup d'entretiens avec ces personnes-là. Donc des avis ont émergé. Selon eux, je cite, « Les parcs éoliens sont relativement loin en mer. Je suis un ancien pêcheur, je ne suis pas pour les éoliennes, je trouve qu'il n'y a pas assez de recul. Il faut voir si cela impactera notre façon de produire. » On peut voir ici que les avis sont mitigés, mais ici ce n'est pas l'impact visuel qui prime, enfin qui les inquiète, mais plutôt l'impact que les éoliennes auront sur les ressources marines. Donc tous ces éléments dits précédemment sur l'acceptabilité des éoliennes offshore ou non confirment ce qui ressort dans la presse et ce que nous avons pu lire.
En conclusion, l'acceptabilité des énergies marines renouvelables sur le territoire normand va différer selon l'acteur, l'usage et les connaissances. Ce qu'on a vu, c'était que les habitants et les actifs semblaient plutôt réticents à l'installation de parcs éoliens offshore, car ils sont plus préoccupés, inquiets des implications que cela comporte. Les touristes, quant à eux, semblent plus favorables aux éoliennes, mais en revanche, ils ont l'air plus inquiets face aux extractions de granulats marins. On suppose qu'ils ont plus peur de voir les plages disparaître plutôt que de voir des éoliennes apparaître. En définitive, il nous semble que chacun agit selon ses propres intérêts et que continuer à améliorer la concertation et la communication semble nécessaire.
Merci.
Merci beaucoup Candice et Adrien pour cette présentation très intéressante. Cette présentation marque donc la fin du premier temps de présentation. Nous allons maintenant passer au premier temps d'échange de la journée. Ce temps d'échange sera animé par Amy. Donc Amy, nous te laissons venir nous rejoindre. Nous allons te laisser la main pour présenter ce temps d'introduction et inviter tes intervenants.
Ok, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Comme Zoé vient de le dire, je m'appelle Amy. Je vais être l'animatrice pour ce temps d'échange sur les énergies marines renouvelables. On va explorer pendant 20 minutes des questions cruciales donc sur les énergies marines renouvelables, notamment l'éolien en mer, en mettant un accent sur la gouvernance, les conceptions de la transition énergétique, les enjeux d'acceptabilité et la transparence de la communication. Donc je vais d'abord présenter les participants que je vais inviter à me rejoindre. Tout d'abord, on a Chloé du Master Développement Durable, Stratégie de Concertation et de Communication qu'on vient de voir sur un WooClap. Merci. Ensuite, on a Mathurin du BUT Ville et Territoire Durable de l'IUT d'Alençon qui a travaillé sur l'acceptabilité des usagers. Et puis pour finir, Amélie du Master Concertation et Territoire en Transition de Sciences Po. Donc nous allons aborder chaque sujet sous le prisme de quatre catégories, vos constats, vos inquiétudes, vos interrogations et vos propositions. Donc on peut démarrer. Oui. Ah d'accord, pardon. Ma première question, c'est quels sont vos constats sur le choix de l'énergie éolienne en mer dans le contexte de la transition énergétique ? Si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y.
Comme constat, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'avantages sur l'éolien en mer par rapport à l'éolien terrestre. Déjà, elles offrent moins de contraintes pour les usagers, que ce soit de dénaturation du paysage ou alors des nuisances. Et elles ont aussi une meilleure performance en mer, puisqu'elles sont beaucoup plus grandes que les éoliennes terrestres, et les vents sont beaucoup plus stables en mer, et ils sont plus fréquents. Et également qu'on a un besoin croissant d'énergie renouvelable et nationale en France et en Europe, et donc il est important de les développer sur ces territoires. Et la France, comme elle est bordée de moitié par l'océan, c'est vrai qu'il y a un grand potentiel d'exploitation des énergies marines.
Merci beaucoup, Chloé. Je sais que pour l'IUT d'Alençon, vous aviez travaillé sur quelle énergie est la plus rentable en termes d'espace et de rendement.
Donc nous, on n'est pas pareil. On a vu que c'est l'éolien qui prime. Surtout en termes d'espace, en fait, l'éolien sur Terre, il est un peu contraint déjà par les reliefs qu'il y a sur le terrain. La mer a l'avantage d'être plate, donc on peut faire un parc beaucoup plus important, beaucoup plus mieux réparti. Et donc déjà, il y a le côté espace, on peut faire des parcs plus grands, plus performants avec la taille d'éolienne. Et il y a aussi, c'est le côté où on sait plus le faire. Et par exemple, un parc photovoltaïque va prendre beaucoup plus de place, un champ photovoltaïque beaucoup plus grand, pour un rendement qui n'est pas forcément au rendez-vous, contrairement à un parc éolien, qui, en plus d'être plus grand, peut permettre une circulation entre les éoliennes, même si c'est quand même réglementé. Mais voilà, donc c'est l'éolien qui prime. Et après, on est sur le photovoltaïque, et après l'hydraulique. Et on a observé qu'il y avait aussi d'autres technologies de EMR qui sont en cours de développement, notamment les hydroliennes. Il me semble qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà mises en place. Et aussi sur la houle et les marais qui sont en développement, donc ça va arriver plus tard. Mais pour l'instant, c'est l'éolien qui prime.
Ok, merci beaucoup. Amélie, je sais que tu souhaitais parler de la capacité d'adaptation des territoires concernant les énergies marines renouvelables.
Oui, je vais prendre le micro.
Ah oui.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai pu aborder la question tout à l'heure, notamment des inégalités qu'il pouvait y avoir. Alors, pour le territoire du Cotentin, ça va plus être donc cette différence entre le littoral et l'aspect plus rural. Et donc dans notre étude, en fait, c'est quelque chose dont on a pu s'apercevoir. Donc en fait, les gens qui seraient plus du côté du littoral seraient plus à même d'être concernés en fait par les questions de l'éolien, alors que les personnes plus dans le cœur du Cotentin soit peuvent être favorables comme on a pu le voir, ou alors juste ne pas forcément s'intéresser à ces questions. Donc en fait, le facteur, le critère de proximité, il est quand même, on a pu voir qu'il était assez important. Mais en fait, au-delà de ça, il y a aussi la question donc, du dialogue que les autorités locales peuvent avoir avec l'État, notamment dans la mise en place de ce genre de projet, qui peut plus facilement se faire, par exemple, si une région, certains acteurs ont pu nous confier, ont un dynamisme qui est plus important. Je pense notamment, par exemple, du côté nord-est du Cotentin, du côté de Barfleur, donc, qui est un village assez dynamique, très touristique, assez attractif, qui va être plus à même, comme on a pu nous le dire, d'avoir des leviers d'action beaucoup plus importants et pouvoir justement dialoguer plus facilement avec les autorités locales, mais aussi nationales. Donc en fait, voilà, ça crée non seulement des disparités géographiques, mais aussi au niveau décisionnel.
Okay. D'accord, je te remercie. Concernant le mix énergétique qu'on a pu évoquer un petit peu, ou le 100% EMR, est-ce que vous avez fait des conclusions là-dessus lors de vos travaux ?
Alors, sur le 100% EMR, pour l'instant, ça peut être envisagé dans le futur, mais ça nécessiterait de réduire sa consommation d'énergie, d'être prêt à limite un peu à reculer dans ce mode de consommation, de revoir tout le côté industriel national, parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup, donc on a des besoins qui sont importants. Aujourd'hui, l'EMR, on ne sait pas le stocker, en tout cas, on ne sait pas le stocker en grande quantité, donc un des points négatifs de l'EMR. Donc aujourd'hui, le mix énergétique, ce serait de mettre en premier front les EMR en production et derrière, en second plan, le nucléaire ou l'énergie beaucoup plus pilotable qui viendront compléter les lacunes énergétiques produites par les EMR. Et donc, voilà, donc on partirait sur ça. Et oui.
D'accord, merci beaucoup. Lors de vos interviews, vos enquêtes de terrain, est-ce que vous avez fait des constats concernant l'implication de la population et leur perspective face à l'éolien en mer, notamment sur l'acceptabilité et tout ça, si vous voulez détailler un petit peu plus que lors des présentations?
Sur l'acceptabilité, c'est vrai que quelques-uns avaient remarqué des lacunes d'information et donc ça jouait sur l'acceptabilité puisque elle n'est pas forcément... un projet n'est pas accepté dès le début, mais il se construit selon la perception et la communication faite autour du projet. Donc plus les gens seront au courant des tenants et des aboutissants d'un projet, plus ils seront enclins à l'accepter. Et donc la concertation et le dialogue ouvert est vraiment important pour que les gens soient informés et impliqués dans l'implantation des parcs éoliens.
Ok, merci. Tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, alors nous, c'est pareil, sur l'acceptabilité, on a repéré plusieurs indicateurs à plusieurs niveaux. D'ailleurs, on a indicateur professionnel, c'est-à-dire en fonction de son métier, on va être pour ou contre. Bah, typiquement, les pêcheurs vont être contre parce que ça utilise leur espace de travail, alors que des ingénieurs ou des fournisseurs énergétiques vont peut-être être contre, parce que c'est pour son propre travail. Eux, ils savent d'ailleurs qu'il y a des enjeux aussi énergétiques, donc il y a une commande à répondre. Après, on a, qui est du côté plutôt des habitants, des usagers. Comme on l'a vu sur la carte, plus on est proche de la côte, plus on va être contre. Donc il y a d'abord ceux qui sont sur la côte qui vont être contre parce qu'ils vont voir les éoliennes. Par exemple, pour le parc de Courseul, ça va être toutes les communes autour de Courseul jusqu'à Lyon-sur-Mer. On va avoir un avis qui est plutôt contre parce qu'ils vont voir le parc de leur côte. Alors que des habitants de Caen vont être déjà un peu plus nuancés parce qu'ils ont un rapport à la mer qu'ils y vont moins souvent, plusieurs fois par semaine. Et derrière, si on va dans l'Orne, là, ils sont tout pour parce qu'ils ne vont pas voir les éoliennes. Et ils savent que de toute façon, il y a besoin d'énergie verte. Et si on prend le problème à l'inverse, mais les éoliennes sur Terre, c'est l'inverse. Sur la côte, on va être plutôt pour, et sur la Terre, on va être plutôt contre. Nous, par exemple, dans l'Orne, on a une commune qui s'appelle la Mulotière. Et il y a un projet de parc éolien près de la Mulotière, et il y a partout des panneaux contre les éoliennes. Donc, peu importe où on les met, il faut être pour ou contre. Mais c'est vrai que plus on recule de la côte, plus on est pour.
Ok. Est-ce que vous avez des suggestions pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité de ces énergies marines renouvelables?
Moi, je dirais que ce serait plutôt un accès à l'information plus simple, qu'on n'ait pas trop à chercher partout d'informations, qu'il y ait une limite à un site qui répertorie tout d'un coup, et avec des mots simples qui soient accessibles. Et pareil, toujours organiser des temps un peu comme ça, plutôt sur le côté sensibilisation et avec des temps d'échange citoyens. Ce qu'on a remarqué aussi sur les débats, ceux qui viennent, c'est... déjà des acteurs ou des pêcheurs, capitaineries ou des ingénieurs. Et au niveau de la représentation des citoyens, Elle y est, il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est des retraités, parce qu'ils ont plus de temps. En tout cas, sur les temps de l'après-midi. Par contre, on a observé que sur la République, le soir, il y a beaucoup plus de citoyens. Et donc, voilà, nous, on est marais, on envisage, on met quand même une préconisation sur inciter vraiment les citoyens, même s'ils ne sont pas forcément experts du sujet ou qu'ils ne connaissent rien du tout, à venir au débat public et à s'informer, à même eux mettre leurs craintes, parce qu'en général, leurs craintes, ça va être sur l'impact du paysage, sur le bruit et sur la biodiversité.
D'accord, merci. Si quelqu'un souhaite rebondir.
Et vraiment communiquer plus que ça sur le débat, peut-être, parce que le site de la Mer en Débat est très bien fait et vraiment, tout est répertorié dessus. Mais les citoyens qui n'ont rien à voir dans par leur profession, notamment par leur habitation, dans l'implantation des parcs éoliens, ils ne sont pas forcément au courant du débat en cours et c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir plus de personnes impliquées.
Ok, donc on a pu parler du processus de concertation. Ensuite, il y a l'implantation forcément de ces énergies. Je sais qu'à Sciences Po, vous avez travaillé sur les modèles décisionnels. Est-ce que tu aurais des suggestions concernant le modèle décisionnel qui doit être adopté pour l'implantation de cette énergie?
Alors, c'est une question qui est très très compliquée, donc je me permets. Ok. Comme j'ai pu, on a pu voilà, en parler tout à l'heure, il y a toute cette question en fait, de territorialisation, nationalisation de l'énergie. Alors évidemment, voilà, c'est quelque chose dont on a parlé avec les habitants. Mais quand on parle de territorialisation, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas pu beaucoup développer tout à l'heure. Mais voilà, donc des projets qui se revendiquent territorialisés, il y en a en France. Je pense notamment par exemple aux centrales villageoises. Mais en fait, c'est des projets qui sont aujourd'hui à une échelle de quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est déjà énorme, mais ça ne concurrence pas les projets d'État qui aujourd'hui se chiffrent à des milliards d'euros. Donc en fait, ce serait imaginer un projet territorial voilà, qui serait de même ampleur que les projets d'État qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose qui est compliqué à envisager, notamment parce que, comme je pouvais parler, il y a des disparités sur les territoires. C'est une question qu'on avait voulu aborder parce qu'on a eu, comme je disais, plusieurs axes d'études, dont celui de la verticalité et comment en fait, les gens pourraient se réapproprier l'énergie et comment en fait, ils voulaient que l'énergie soit produite et consommée sur leur territoire. Mais voilà, ça reste des questions assez compliquées à répondre. On a pu en discuter avec certaines personnes et ce qui est revenu de nos micro-trottoirs, notamment il y a deux semaines de cela, c'était que les gens se posent beaucoup de questions en fait sur. On parlait des inquiétudes ou des interrogations que les gens pouvaient avoir. C'était comment l'énergie est produite, comment l'énergie est redistribuée. Donc oui, pour certaines personnes, elles aimeraient que l'énergie soit consommée au même endroit, mais de même que certaines personnes. Je pense qu'il serait favorable que toutes les énergies soient, que l'énergie soit redistribuée au plus grand nombre. Donc c'est une question assez compliquée et donc en fait on fait avec ce qu'on a eu sur le territoire.
D'accord, merci beaucoup. Je sais que certains d'entre vous ont travaillé sur la décarbonation des éoliennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez des suggestions ou des inquiétudes là-dessus à faire remonter?
Alors, sur la décarbonation des éoliennes, très vite fait, en fait, ça a déjà été évoqué, mais c'est fait sur tout le processus de la création d'éoliennes, de sa création jusqu'à son cheminement et à son mise en service. L'idée serait de réduire au maximum les émissions de carbone de ça, pour pas que ce soit un peu paradoxal, dire voilà, on crée une énergie verte. Sauf que derrière, c'est une aberration écologique. Donc, il faut que ce soit justifié et que ce soit contrôlé, qu'il n'y ait pas trop d'émissions carbone sur la création. Après, logique, c'est pas logique, mais les éoliennes qui sont créées sont faites avec de l'énergie carbonée, vu qu'on n'a pas pour l'instant suffisamment d'énergie verte pour consacrer uniquement cette énergie à la création d'éoliennes. Donc, pour l'instant, c'est carboné et on espère sur le long terme, sur le futur, que l'énergie verte va servir à créer d'autres énergies vertes, ainsi de suite. Donc, faire attention à pas que la création d'éoliennes soit trop carbonée et soit raisonnée. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Là, on est à la fin du temps imparti pour ce temps d'échange. Merci aux étudiants qui ont participé à cet échange. On vient d'entendre un certain nombre de questions, de suggestions et d'inquiétudes. Donc, je suppose que certains d'entre vous dans le public ont aussi des choses à dire ou à faire remonter. On a 15 minutes pour vous écouter et échanger avec vous. Chris est juste là pour vous passer le micro, donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez participer en nous donnant en disant qui vous êtes et ce que vous faites. C'est parti, allez-y, on vous écoute. Si vous voulez réagir à ce qui a été dit durant ce temps d'échange. Oui, monsieur là-bas.
Oui, moi je m'appelle Jean-Pierre Renard, j'habite tout simplement à l'université où j'ai fait mes études il y a déjà un certain temps, mais moi je faisais du droit. Alors, en l'occurrence ici, je ne sais plus qui a dit d'entre vous, qui a soulevé le problème de la territorialisation. Certes, mais vous ne pensez pas que c'est un peu incompatible avec qu'on doit avoir au niveau de l'État une planification stratégique de l'énergie. Alors moi, je vois que c'est assez contradictoire. Oui, de la territorialisation. Alors, quand on pense en contre-temps, moi, j'en suis originaire aussi. Alors, c'est très spécifique. On a bien un journal qui s'appelle La Manche Libre. Donc, mais moi, je ne vois pas trop. Alors, est-ce que vous pouvez quand même expliquer comment ça pourrait être compatible et jusqu'à quel point?
Mais si tu souhaites répondre.
C'est toute la question, justement, et c'est pour ça qu'on a voulu se pencher sur cette problématique. C'est de comprendre, en fait, à quel point, en fait, on pourrait, par exemple, impliquer les habitants, jusqu'où ils pourraient aller dans le processus décisionnel. Est-ce qu'ils pourraient être impliqués, notamment financièrement, par exemple, être actionnaire du projet, par exemple, comme ça peut se faire dans certains pays nordiques. C'est des limites en fait que, enfin, on n'a pas la réponse. C'est des constats qu'on a pu faire sur le territoire, des choses qui nous sont revenues parce que il y avait une problématique par rapport à la verticalité. Donc beaucoup de personnes nous parlaient en fait d'un ascendant que l'État pouvait avoir sur le territoire. Mais évidemment, on ne prétend pas avoir la solution miracle et la réponse à est-ce que ce serait, est-ce que la solution serait de territorialiser ou de nationaliser comme c'est fait aujourd'hui. Et c'était en fait la nuance qu'on voulait juste apporter dans notre étude et justement de se pencher sur cette question-là avec les habitants.
Attendez, on va vous passer le micro, monsieur.
Oui, vous venez de donner une précision et essentielle. Pour faire participer les gens, il faut avoir affaire à leur argent. Et l'actionnariat, pour une entreprise, par exemple, qui se créerait, est absolument fondamental. Mais vous n'aviez pas expliqué ça jusqu'à présent. Mais autrement, c'est une notion à retenir. Hein. Plus on se sent concerné, et lorsqu'on touche à l'argent, on se sent automatiquement concerné, surtout lorsqu'on est normand. Donc voilà.
Merci pour votre participation, monsieur. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle souhaiterait rebondir? Oui, Chris, juste là-bas. On arrive.
Merci, bonjour à toutes et tous. Je suis Maël Goumri, je suis chercheur à l'Université Paris-Dauphine et également enseignant à Sciences Po Rennes. Je voulais réagir sur deux termes que vous avez utilisés qui sont très controversés en sciences sociales, qui sont d'une part le terme d'acceptabilité et d'autre part le terme de NIMBY. Pourquoi est-ce qu'ils sont controversés? C'est parce que souvent, ils laissent à penser que finalement, les gens s'opposent à des projets pour des raisons qui sont finalement très égoïstes. J'en veux pas à côté de chez moi. Ou même, je suis concerné, je ne veux pas les voir, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez vu sur le terrain et surtout qui est exclusif? Est-ce que les gens n'ont pas aussi exprimé des opinions qui seraient défavorables à certains des projets, mais finalement pour des raisons qui sont beaucoup plus vastes, plus générales et en tout cas dans souvent l'esprit qu'on peut avoir en y réfléchissant, aussi qui sont moins égoïstes, ou en tout cas plus pour un intérêt général. Ou en tout cas, est-ce qu'ils justifient aussi leur position par autre chose que j'en veux pas chez moi, que c'est moche, que ça défigure mon paysage? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des réflexions là-dessus? Et alors la petite question subsidiaire, c'est qu'on parle beaucoup d'éolien en mer pour parler d'énergie marine renouvelable. Quid des autres énergies marines renouvelables? Il n'y a pas que l'éolien en mer. Et notamment, une question qui se pose régulièrement, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on met aussi les moyens sur d'autres types d'EMR qui pourraient aussi être prometteurs, ou même d'autres types d'éoliens en mer, puisque ça a été... enfin, on y a fait référence, en tout cas, dans le quiz qui a été fait. Et est-ce que l'acceptabilité, elle passe pas aussi par un travail des industriels pour repenser les projets et les mettre plus en phase avec les demandes de la société?
Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'un des étudiants souhaite réagir?
Alors, sur l'acceptabilité, on a eu d'autres discours que c'est le paysage, ça défigure. Notamment, on a... un entretien avec un monsieur qui est du collectif Côte de Grâce Propre à Honfleur, et où ses missions, c'est de nettoyer les cours d'eau et la côte de Honfleur. La côte de Grâce, du coup. Et donc, on l'a demandé, on lui a dit, si jamais il y a un parc éolien sur votre côte, vous en pensez quoi? Alors lui, du coup, il était contre, mais plutôt pour des questions de biodiversité. Il disait, sur les flux migratoires, sur les fonds marins. Donc on a eu des témoignages qui ne sont pas que le paysage. Même moi, pour avoir parlé avec des habitants, en général, c'était aussi sur la biodiversité. Pareil, on a eu un journaliste qui est de Ouest-France qui a été sur un parc en création, qui disait, ce qui l'inquiète le plus, lui, c'est pareil, c'est la biodiversité. Donc, on se penche plus maintenant sur la biodiversité que sur le paysage. Et en fait, aujourd'hui, même les habitants de la côte, en fait, savent que, ils n'ont pas le choix, en fait, d'avoir le parc. Et ils sont beaucoup plus ouverts, en fait, à la question d'avoir des éoliennes, parce qu'ils sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus au courant, beaucoup plus sensibilisés sur les questions énergétiques et du climat. Après, sur les autres types d'EMR, on n'est pas ingénieur, mais on a d'autres idées. Comme on l'a dit, il y a les hydroliennes sous la mer, et il y a plusieurs en recherche, la houle, la marée, aussi avec la salinité de l'eau, mais qui sont pour l'instant en développement. Donc on n'a pas encore d'exemple, il n'y a pas de recul sur ces sortes d'installations, mais c'est en création et je pense que ça va arriver dans les prochaines années. Voilà.
Merci beaucoup. Il y a peut-être des experts ou des représentants de l'État dans la salle qui souhaitent rebondir sur le développement des autres énergies renouvelables.
Oui, donc Damien Levallois, donc je suis à l'Adréal Normandie, donc je suis en charge du développement de l'éolien en mer. Alors sur les différentes énergies renouvelables en mer, faut voir aussi les capacités finalement de production et les gisements réels de production. Donc comme on l'a dit, l'éolien en mer peut se placer assez loin des côtes, il y a de l'espace, c'est plat, tout ce qui a été dit tout à l'heure. Si on vient sur l'hydrolien, il y a quelques spots. Voilà, il y a le Rat Blanchard, potentiellement un petit peu Barfleur, mais qui a été abandonné pour l'instant, c'est plutôt le Rat Blanchard. Et puis le Frombeur, donc deux petits spots, et deux petits spots qui finalement n'ont pas la capacité de production que peut avoir l'éolien en mer sur l'ensemble des façades maritimes. Donc on ne peut pas remplacer par, ça viendra en plus, peut-être plus tard, mais on ne peut pas remplacer par en tout cas. L'éolien en mer, ce qui est attendu, c'est près de 25% de notre production électrique. Donc c'est pas il faut toujours le penser comme le mix énergétique. J'ai entendu parler plutôt des mix, plutôt des multiples systèmes de production, mais il y aura quelques systèmes majeurs, dont l'éolien en mer, dont le nucléaire, et puis les autres venant compléter l'ensemble du dispositif. Après, moi aussi, je peux avoir une question. Donc j'ai entendu que les soucis de communication, d'information, vous avez travaillé sur le Cotentin. Alors le Cotentin, on y est beaucoup allé, puisqu'on a développé les projets Centre-Manche. On a fait je ne sais plus combien de réunions avec M. Pacori dans ce secteur. Et principalement donc, sur la côte est du Cotentin, donc Barfleur, Saint-Va, et puis bien sûr Cherbourg. Et on entend Et les journalistes ont beaucoup écrit sur toutes ces réunions, sur tout ce, ça a duré 2-3 ans. Et là, on y retourne avec ce débat. Et on entend que finalement, les gens ne sont pas informés, ne sont pas au courant, ne savent pas ce qui se passe, ne s'approprient pas de fait les projets, ne s'approprient pas la matière. Alors, au final, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que vous conseillez directement en quelques mots ? Alors, j'ai entendu un peu de vulgarisation, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Est-ce que vous avez d'autres suggestions ? Ou pas forcément ?
Non.
Non, donc on fera remonter la question chez les autres étudiants pour répondre à ces suggestions. Il y avait d'autres questions, oui, derrière. Merci beaucoup pour votre question.
Merci. Bonjour, je suis Pierre Bergel. Je vais préciser d'abord que je suis géographe parce que ça conditionne un peu. Enfin, il vaut mieux que vous le sachiez avant de répondre aux questions que je vais poser. J'ai longtemps enseigné d'ailleurs en DDSC et EPE et je suis retraité de frais, donc je viens en touriste. Alors, j'ai plusieurs questions. Enfin, après ces exposés très riches, effectivement, il y a pas mal de choses. Alors je vais essayer d'être synthétique et rapide. Je reviens un peu au début et je vais d'ailleurs reprendre les deux interventions précédentes. Effectivement, on a ce gros mot de l'acceptabilité. Enfin, je partage tout à fait l'avis de mon collègue. C'est une notion, une catégorie qui mérite sérieusement d'être questionnée et interrogée parce qu'effectivement, elle part du principe que les gens seraient a priori contre. Et puis en général, quand on dit ça, bah oui, les gens n'acceptent pas, donc il faut faire davantage de pédagogie. En général, il y a acceptabilité et pédagogie qui va avec. C'est vrai que quand on est un peu, même si on n'est pas spécialiste de la discipline, quand on a un peu des notions de sciences politiques, on se dit que ça peut être un petit peu court. Donc moi, je vous pose une première question. Est-ce que, alors évidemment, c'était en dehors de ce que vous aviez à faire. Hein, alors, je vais pas, on peut pas vous jeter la pierre. Mais est-ce que, avant de dire oui, les gens contestent parce qu'ils sont pas suffisamment informés. Donc, si on les informait davantage, ils adhéreraient davantage. Est-ce qu'il vaut mieux pas inverser le problème et se dire que finalement tout ça, c'est d'abord parce que les gens sont méfiants vis-à-vis de l'action publique, particulièrement en France, méfiants notamment vis-à-vis de l'État, quand l'action publique est centralisée, que finalement, les blocages existent. Et effectivement, on ne règle pas la question sur un thème en particulier, parce que on s'aperçoit que ce n'est pas seulement vrai pour les énergies renouvelables, que les gens râlent, c'est pour des tas de choses. Et dès que finalement, il y a une action publique qui se déploie sur un espace, je préfère le mot espace au mot territoire, mais enfin, je ne vais pas développer. Effectivement, il y a des contestations et que dans d'autres pays, ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Donc ça, c'est, je pense, le premier groupe de questions important sur le rapport aux politiques. Je ne vais peut-être pas développer, mais simplement, j'en avais trois, mais je ne vais en faire que deux, parce que l'autre truc, c'est la décentralisation. Ça, c'est ce que vous appelez, vous, la territorialisation des énergies, qui est plutôt une décentralisation de la production. En fait, c'est plutôt comme ça. Est-ce que dans vos enquêtes, je m'adresse en fait à tout le monde, pas seulement à vous trois, est-ce que vous avez vu, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que plus on décentralise et plus on a des petites unités. Par exemple, des centrales, enfin des éoliennes coopératives qui vont alimenter une petite ville, etc., plus on a un impact paysager. Donc les gens ne peuvent pas vouloir en même temps plus de décentralisation et moins d'impact paysager. Inversement, une grosse installation, ça, elle pollue. Elle pollue visuellement. L'usine de retraitement de la Hague, on la voit, quoi, même si elle est un peu cachée par le relief, on la voit dans le Nord Cotentin, mais au moins, c'est à un endroit précis. Cette question de la répartition, ouais, c'est pour ça que je parlais de géographie. Est-ce qu'elle est apparue dans vos enquêtes avec ce paradoxe ? Une autre troisième question sur le rapport à la mer, je vais laisser tomber. Le premier groupe de questions me semble plus important sur ce rapport aux politiques. Comment vous le sentez, vous, les jeunes générations, qui avez un rapport aux politiques qui est forcément différent de moi, mais parce qu'on a un certain nombre d'années d'écart et de générations.
Merci pour vos questions. Je pense que comme vous adressez à tous les étudiants, les réponses peuvent venir à la fois de la salle et de la scène. Donc si vous souhaitez répondre aux questions qui ont été posées, n'hésitez pas à lever la main. Amélie, tu peux...
Du coup, je reviens sur ce dont vous parlez par rapport à la décentralisation des énergies. Et je pense en fait que, comme vous disiez, le principe d'acceptabilité, c'est un terme qui peut être assez compliqué à envisager. Mais je pense que dans le Cotentin, en fait, il y a aussi toute la dimension... le rapport à l'énergie dans le Cotentin, il est aussi très présent. Il y a déjà le nucléaire.
Donc je pense que cette question d'acceptabilité, je mets des guillemets quand je parle de ce terme, elle est aussi induite en fait par les énergies qui sont déjà présentes sur le territoire. Et donc en fait, les géants en général ne nous parlaient pas simplement des énergies renouvelables ou des éoliennes qu'il y avait sur le territoire, mais ça induisait aussi en fait tout l'historique qu'il pouvait y avoir, notamment avec le nucléaire. Donc je pense qu'en fait c'est très, très spécifique au Cotentin. Et ensuite, je ne sais plus, c'était quoi votre question ? Oui, et donc du coup, je pense que voilà, ça partait aussi de l'historique qui pouvait y avoir. Enfin, je veux dire, ça fait quand même depuis une bonne quarantaine, cinquantaine d'années aussi que le nucléaire était présent. Et donc peut-être que pour certaines personnes qu'on a pu interroger, les craintes vis-à-vis de nouvelles énergies, pas forcément renouvelables, mais juste le fait qu'il y ait une nouvelle implantation d'énergie. Voilà, on a eu des gens qui nous parlaient du fait que le Cotentin, c'est pas la centrale électrique de la France. Et donc je pense qu'il y a voilà, ce rapport en fait, à l'énergie qui peut être beaucoup plus compliqué, justement parce qu'il y a un passif avec les énergies, ce qui peut être plus difficile à communiquer du coup, sur ces questions-là.
Pourquoi ?
Ça aurait été bien de creuser cette question-là. Elle est fondamentale pour le Nord Cotentin.
Chris ?
Me semble-t-il.
Oui, juste pour compléter ce que vous venez de dire, on a entendu dans la Somme, nous, les membres du débat public, par exemple dans la Somme, département de la Somme, où il y a beaucoup d'éoliennes à terre, le public, les élus, les acteurs nous ont dit « bon, ça suffit peut-être dans notre département, on en a assez, quoi. On n'est pas là juste pour produire pour les autres. » Mais voilà, c'était juste une observation que je voulais faire sur le sujet. C'est un peu comme dans le Cotentin, quoi.
Merci, on note tout ça. Juste pour rappel, il faut bien parler dans le micro parce que c'est enregistré. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rebondir sur ce rapport aux politiques ou à la décentralisation ? Oui.
Oui. Donc Laurent Dumont, je travaille aussi à la DREAL comme Damien, mais moi je m'occupe essentiellement de la frange littorale. Après, j'ai plus des métiers d'urbanisme aussi, de géographie. Alors. Il y a quand même, c'était pas non plus l'objet de votre recherche, et je sais pas jusqu'où vous êtes normand, donc, mais il y a des parallèles. Là, on parle d'énergie électrique. On peut se poser la même question sur les importations de pétrole. Tout le kérosène de Roissy arrive par la Normandie, ou à peu près. On peut se poser la question sur les déchets. Et elle s'est posée il n'y a pas longtemps, y compris à France 2, où est-ce qu'on va mettre les déchets de Paris ? Bah, en Normandie. On peut se poser la question sur l'extraction de carrières et de matériaux, et donc de l'exploitation de ressources à un endroit pour que ça profite à d'autres. Enfin, en fait, la question, elle est quand même largement liée au système institutionnel et à un certain nombre de choses. Et en comparaison, alors, l'Île-de-France, par exemple, contrairement à Bruxelles, n'a pas de centrale nucléaire, et c'était un choix dès le début de l'État central, clairement. D'autres régions voisines ont failli en avoir, mais n'en ont pas aujourd'hui, parce que c'est le résultat de luttes des années 70-80. Voilà. Enfin, comment est-ce qu'on articule finalement ce qu'on peut vouloir pour soi localement, pour sa communauté, ce dont un État par ailleurs a besoin, etc. Enfin, c'est des questions qui sont récurrentes. Et donc, puisque vous avez... alors, vous n'êtes pas aux manettes, c'est pas vous de décider, mais de quoi vous avez envie, vous, dans le monde de dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport aux réactions que vous avez pu observer chez les uns et chez les autres dans vos travaux, mais même, enfin, j'ai envie de dire personnellement, alors vous êtes nombreux, mais les uns et les autres, enfin, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ça vous... Il y a des choses dont vous voulez, des choses dont vous ne voulez pas ? Et de la même façon, sur est-ce qu'il faut produire toujours plus d'énergie ? On peut faire le Jankovici de base, mais enfin, on n'a jamais autant extrait de pétrole que depuis qu'on a inventé l'électricité, par exemple. Bon. Donc, enfin, est-ce que pour vous, pour votre monde à vous, pour celui de vos enfants, est-ce que ça éveille des choses ? Est-ce que vous avez des envies ? Et donc, est-ce que vous avez des demandes aussi à nous formuler ?
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? Oui, vas-y.
Alors, je ne vais pas parler en mon nom. Je vais parler notamment avec les réponses qu'on a pu avoir sur le territoire. Et cette question de la production de l'énergie, elle est beaucoup revenue, notamment dans notre premier terrain, mais aussi dans notre deuxième terrain où on a pu faire des micro-trottoirs. Et donc, je pense qu'il y a une certaine interrogation, ou du moins, certaines personnes ont pu nous parler de est-ce que c'est nécessaire, en fait, de continuer à produire autant d'énergie ? Est-ce que, en fait, ces éoliennes, notamment, ce serait un supplément d'énergie ? dans quelle mesure en fait il serait nécessaire, en fait, où est le curseur de la production énergétique. Donc c'est des choses qui ont pu aussi revenir. Et je pense que oui, c'est des questions qui sont très intéressantes à poser. Et enfin, ça a été très intéressant aussi pour nous d'avoir des retours comme ça, donc, notamment dans le Cotentin où l'énergie est déjà très présente, mais aussi de la part, pas forcément d'acteurs du territoire, mais juste d'habitants qui se questionnaient sur ces questions-là. Et je pense redonner un peu de légitimité à tous ces gens qu'on n'entend pas forcément, qu'on a pu aller interroger par rapport à ces questions, c'est aussi très important.
Merci Amélie. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle souhaiterait réagir ? Oui, Chris. De l'autre côté.
Oui, alors donc je suis une camarade de Mathurin et je vais rebondir sur ce qui vient juste d'être dit parce que c'est justement ce que je voulais dire. C'est que par rapport au manque de communication ou à la méfiance des gens vis-à-vis de la politique, ça vient avant tout, je pense, du fait que les gens dont on demande l'avis, c'est des gens qui se sentent déjà concernés. Nous, c'est ce qu'on a remarqué pendant notre étude, c'est que les gens qui ont accepté de nous parler, qui ont accepté de répondre à nos questionnaires, c'était des gens qui se sentaient concernés par le sujet parce qu'ils sont contre ou pour, justement. Ça rejoint le côté NIMBY, là, des gens plutôt égoïstes qui n'ont pas envie d'avoir ça à côté d'eux, comme ce qui a pu être dit. Mais donc les gens, j'ai pas envie de faire un profil type de quelqu'un qui n'a pas été interrogé, mais quelqu'un qui va plutôt être dans une classe défavorisée et qui se sent pas totalement relié à la société. Ces personnes-là, elles ne sont pas forcément prises en compte dans les concertations comme celle-ci. Je vois dans les différentes réunions publiques qu'on a pu organiser ou auxquelles on a pu participer, les gens qui viennent, c'est des gens qui sont plutôt cultivés, qui vont se sentir vraiment reliés à la société et à ces sujets-là. Et donc, eux, leur parole est prise en compte. Mais tous les gens qui n'ont pas forcément les informations, qui sont victimes du manque de communication vis-à-vis de ce sujet-là, on ne les prend pas forcément en compte. Donc, je pense que c'est aussi ça, un des soucis du débat en cours, c'est le manque de communication pour les gens qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas la possibilité en fait de vraiment s'intéresser à ça parce qu'ils n'ont pas la culture pour, ou en tout cas ils n'ont pas été éduqués de cette manière-là. Je pense aux gens qui n'ont pas forcément pu faire d'études longues ou qui... Enfin, j'ai pas envie de faire d'une critique ou de classement des populations, mais c'est ce qui est ressorti en tout cas nous dans notre étude.
D'accord, merci beaucoup pour ton intervention, on fera remonter ça. On arrive à...
Oui, je voulais juste réagir à ce qui vient d'être dit. En complément de ce qu'a dit Damien Levallois, on a mis en place le débat des infographies. On a mis en place des éléments de simplification dans l'information. On est tout à fait conscient que sur le débat, il y a beaucoup de thèmes abordés. C'est compliqué, la décarbonation, les transports, la pêche, les pêches, la politique énergétique, la sobriété. Et c'est vrai que lorsqu'on ne s'y penche pas, lorsqu'on ne s'y intéresse pas, c'est compliqué d'aborder tous ces sujets. Et lorsqu'on aborde, comme vous, les gens dans la rue, sur des débats mobiles, rentrer dans le sujet, si on n'a pas déjà un peu de connaissances, c'est très compliqué. On est très conscient de tout ça, mais il y a aussi, comme disait M. Levallois, il y a comme aussi un effort à faire de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, d'aller chercher l'information, d'aller lire le sujet. Voilà. Il y a d'autres sites. Même le site qu'on a mis en place, il n'est pas forcément lu tout le temps par tout le monde, et même dans tous les recoins du site, et Dieu sait si on en a. Mais vous avez aussi, par exemple, le site Les Éoliennes en mer, pour ne pas les citer, qui a beaucoup d'informations et qui n'est pas forcément lu ni connu de tous. Donc voilà, c'est aussi à la fois, on est conscient, un effort de vulgarisation qu'on doit faire et aussi un effort de chacun d'entre nous d'aller chercher l'information. Ah, ma collègue va réagir.
Oui, vous avez tout à fait raison sur l'inclusion. Ça fait partie, c'est un des aspects que la CNDP souhaite vraiment intégrer pleinement dans tous les débats. Et ça fait donc pour cela, nous avons aussi des actions qu'on a menées avec des publics dits éloignés de la décision, des centres sociaux ou autres, avec lesquels nous avons travaillé. C'est vrai que c'est des dispositifs qui sont compliqués à fusionner avec d'autres publics, parce qu'on sent qu'il y a besoin d'échanges et de travail sur des supports qui sont différents. Donc ça, on a vraiment conscience et on essaie vraiment de le développer de manière plus systématique. On a aussi la diversification des modalités d'intervention sur le territoire. Quand on a ce qu'on appelle les débats mobiles, c'est-à-dire que l'on va sur des marchés ou dans des manifestations, on s'adresse aussi à des personnes qui ne se sentiraient peut-être pas concernées ou légitimes à intervenir sur un sujet, qui n'oseraient pas franchir la porte d'une réunion publique ou même d'un atelier thématique. Et ça permet d'avoir des échanges en bilatéral qui sont peut-être moins impressionnants, plus appropriés en termes de vocabulaire et de recueil d'informations. Mais c'est vraiment un point qui reste encore à développer. Ça, vous avez tout à fait raison de le souligner tous.
Merci beaucoup pour votre intervention. On arrive à la fin du temps imparti. Je sais que tout le monde n'a pas pu participer. Je vais repasser la main à Antoine qui gère la journée.
Merci, Amy. Merci à tous. La fin de ce temps d'échange marque la fin de la première séquence sur les EMR. Donc un grand merci à tout le monde pour les présentations, les questions, les réactions. On va pouvoir maintenant prendre une petite pause et aller prendre un café juste en dehors de l'amphithéâtre. On va revenir pour 11h30. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous réinstaller un tout petit peu avant pour qu'on puisse commencer à 30 piles. Donc voilà, à tout à l'heure.